ce temps de l'Avent, dans cette année liturgique, se termine par la proclamation de l'évangile de l'Annonciation. On pourrait se dire, tiens, c'est un peu étonnant, c'est doublement étonnant, parce qu'on l'a déjà entendu au 8 décembre. L'évangile de l'Annonciation, c'est toujours l'évangile de la fête de l'Immaculée Conception, qui nous lance quand même à l'école de Marie dans le temps de l'Avent. Et puis, c'est donc l'évangile du quatrième dimanche de l'Avent, et c'est donc d'autant plus étonnant que ce soir c'est Noël, et on pourrait se dire, on va un peu vite dans les faits, l'Annonciation et la Nativité. Mais en fait, je trouve que c'est très beau de terminer le temps de l'Avent par ce récit de l'Annonciation. C'est très beau de se mettre, alors que on a essayé quand même de se préparer sérieusement à Noël, c'est très beau, à la fin, de se mettre à l'école de la Vierge Marie. Je ne sais pas si vous avez remarqué que quand il y a un temps de préparation à une fête liturgique, c'est très vrai du temps de l'Avent et du temps de Carême, on est tous un peu devant la même chose, la même difficulté. C'est-à-dire qu'on est plein de bonnes résolutions au début, on se lance dans plein de choses. En tout cas, on se dit, on va faire plein de choses, et puis arrive la fin du temps, et on se dit, on n'a pas fait grand-chose. Alors, il y a deux solutions. Soit on se met à courir, on se dit, il me reste 24 heures pour rattraper ce que j'ai pas fait. Soit on se dit, peut-être qu'il y a autre chose, en fait, à faire. Et qu'il suffisait pas juste de bien prévoir cette préparation à Noël ou cette préparation à Pâques. Et voilà que, il me semble que c'est ça, à l'école de Marie, on découvre, il y a autre chose à faire que juste des efforts moraux, qui sont bons, hein, des corrections dans notre vie, etc. Il y a autre chose à faire. Et c'est quoi ce autre chose? On va y venir. Mais du coup, les lectures d'aujourd'hui commencent avec le passage du roi David, qui veut bâtir une maison, un temple, le temple, pour le Seigneur. David, il est à l'apogée de sa gloire, hein, à sa gloire de roi, sa gloire humaine, mais sa gloire, elle lui est donnée par Dieu, parce que David, c'est vraiment le saint roi. Et donc, il a installé Israël, il a fait l'unité du peuple, il a donné à ce peuple une capitale, la ville de Jérusalem, la ville sainte. Il est reconnu comme un roi vaillant, un roi qui aime son peuple. On n'oubliera jamais d'ailleurs, alors qu'il est roi dans tout ce que ça veut dire de gloire humaine, on n'oubliera jamais que David, il était petit berger avant, et qu'il conduit son peuple comme un berger conduit son troupeau. Et on sait bien ce que ça annonce. Ça annonce celui qui dira « Je suis le bon berger ». Voilà, mais David, il est homme, et du coup, il se dit « Qu'est-ce que je peux faire de plus pour le Seigneur ?» Ou qu'est-ce que je peux faire même en reconnaissance de ce que le Seigneur m'a donné? Je vais lui bâtir un temple, une maison solide, belle, pour éviter que le Seigneur soit comme au temps du désert, sous la tente. Et même le prophète Nathan s'y trompe. « Vas-y, dit-il à David, fais ce que tu veux faire de bon avec ton cœur. » Et voilà que le Seigneur rattrape tout le monde en disant « Est-ce que vous croyez que j'ai besoin de ça ?» Et on peut continuer hein, l'histoire du temple, parce que David, du coup, ne bâtira pas le temple. Salomon, son fils, bâtira le temple. Et David préparera quand même, parce qu'il est un peu accroché à son idée, donc il préparera tout ce qu'il faut pour construire le temple. Salomon bâtira le temple, un temple splendide, mais à la fin du règne de Salomon, en tout cas sur les dernières années, non, à la fin du règne de Salomon, le peuple se divisera, ce sera le grand schisme en Israël. On aura eu beau avoir bâti un temple, ça n'empêchera pas que le peuple se divise et même se fasse la guerre, jusqu'à prétendre pour les uns, non, le lieu où on adore Dieu, c'est pas le temple d'Israël, c'est chez nous le mont Garizim, etc. Et donc du coup, le temple n'aura pas suffi à faire l'unité du peuple. Le temple n'aura pas suffi à rappeler au peuple que Dieu est là, au milieu de son peuple, et qu'il fait la communion. Et puis ce temple, je vais vite dans l'histoire, mais ce temple, il sera détruit. Il sera rasé au moment de l'exil à Babylone. Ce sera une grande tristesse. C'était la gloire d'Israël, d'une certaine manière. Et puis, quand on reviendra, on voudra le rebâtir. Alors, ça prendra des temps et des lustres et des lustres. Et un contribuera à le rebâtir, c'est Hérode, Hérode le Grand. Mais lui, Hérode, c'est le roi usurpateur. C'est pas le roi de la descendance de David. C'est le roi que les Romains ont installé là parce que, justement, il sert leurs intérêts. Et pourquoi est-ce que Hérode va rebâtir un temple qui sera encore plus beau que celui de Salomon ? Probablement parce qu'il veut se gagner la faveur du peuple, parce qu'il n'a aucune légitimité. Et du coup, en faisant cette œuvre de rebâtir le temple, on comprend bien, il instrumentalise en fait la chose. Il le fera très beau, mais c'est dans son intérêt à lui, et non pas pour lui. C'est de ce temple-là que Jésus dira « Détruisez-le, et moi en 3 jours je le rebâtirai ». Et donc, on peut bien contempler le temple, on peut bien contempler ce que nous les hommes, parce que finalement, on est dans cette histoire-là, ce que nous les hommes ont fait pour Dieu, on voit bien que Dieu n'y attache pas beaucoup d'intérêt. Il y a autre chose à faire. Et voilà qu'on regarde de l'histoire de ce temple, gloire quand même assez humaine, même si l'intention est bonne, c'est pour Dieu qu'on fait ça. On regarde de cette histoire du temple, l'Église nous présente la Vierge Marie. Et finalement, celle qui permet... qui nous permet d'accueillir la réalisation de la promesse de Dieu. Ce n'est pas celle qui fait des grandes choses. Ce n'est pas celle qui va se mettre en avant. C'est celle qui dit « Il me soit fait selon ta parole. Je suis la servante du Seigneur. » Voilà qu'on est rassuré en fait. Puisque pour accueillir Dieu, c'est ça qu'il nous faut dire. Ce n'est pas envisager des grandes œuvres. C'est être disponible intérieurement à ce Dieu. C'est lui permettre d'entrer dans notre vie. Non pas de l'enfermer dans... des maisons de pierre, on a envie de dire des mausolées. Vous savez, les mausolées, c'est fait pour les morts, hein, c'est pas fait pour... C'est pas d'enfermer Dieu dans des œuvres humaines. C'est pas d'enfermer Dieu dans des idéologies. Dieu, il n'en a que faire de ça. On a l'impression qu'il a même un peu de mépris pour ça. Parce qu'il veut plus grand pour nous. Il veut nous toucher au plus profond. Il veut que nous lui ouvrions notre cœur. Et c'est là qu'il s'agit de l'accueillir. Et alors, frères et sœurs, il nous reste moins de 24 heures. Moins de 24 heures pour se décider enfin à ouvrir son cœur au Seigneur et pour le laisser entrer dans notre vie ce soir. Et se laisser ainsi transformer du plus profond pour qu'alors on puisse poser des œuvres belles, grandes, des œuvres pour Dieu. Mais des œuvres qui viennent de notre amour pour Dieu, de notre intimité, de notre familiarité avec Dieu et non pas des œuvres... comme trop souvent on le fait, parce qu'encore une fois, c'est tellement humain, dans lesquels, finalement, on trouve quand même pas mal notre gloire à nous. Demandons au Seigneur d'approcher de ce grand mystère de Noël avec l'humilité de la Vierge Marie. Demandons au Seigneur de nous aider à entendre dès ce soir ce que l'Évangile de demain proclamera. Non pas Dieu est venu dans son temple, non pas Dieu a construit ceci ou Dieu a fait cela. Le Verbe s'est fait chair. Voilà le mystère de la venue de Dieu. Le Verbe s'est fait chair. Et je vous laisse avec cette question qu'il vous faut résoudre avant ce soir. Quelle est cette chair, notre chair, c'est-à-dire notre vie? Quel est ce lieu de notre vie où le Seigneur veut vraiment venir maintenant? Amen.